Martin Cabouette, bonjour.
Bonjour, M. Fortin.
Vous êtes professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes également titulaire de la chaire de recherche dont il est question aujourd'hui, puisqu'on a lancé la chaire de recherche Autodétermination et handicap il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Bon, je la pose pour les autres, mais je la pose pour moi aussi. Qu'est-ce qu'une chaire de recherche versus un département qui investit dans la recherche?
Ben, en fait, une chaire de recherche, c'est une structure à l'intérieur de l'université qui nous permet de concentrer, en fait, des ressources pour approfondir une question particulière, autant sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de la formation. Donc, la chaire, ce qu'elle va permettre, en fait, c'est de générer différents projets de recherche qui vont nous permettre de mieux comprendre comment soutenir l'autodétermination des personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis, à la fois, bien, on va faire en sorte que les résultats de ces recherches-là se transforment en moyens, en modalités de formation puis de développement de compétences là, pour tous ceux qui sont concernés par ce thème-là.
Autodétermination, ce serait la façon que Denise Bombardier dirait empowerment?
Ben en fait, ça se rapproche de l'empowerment, en okay. fait, mais c'est cette idée-là de faire en sorte que la personne en situation de handicap là, puisse avoir le pouvoir d'agir, de prendre des décisions pour ouais. elle, puis qu'elle ne ouais. soit pas toujours dans un contexte où d'autres prennent des décisions pour elle. C'est un défi particulier, notamment pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Ouais, c'est sûr. Maintenant, comment on finance une chaire de recherche? C'est sûrement pas juste l'université qui met de l'argent là-dedans.
Ben là, ce qui est intéressant, en fait, pour ce qui est de cette chaire de recherche, c'est ce qu'on appelle une chaire de recherche en partenariat. Mmh. Donc, il y a quatre partenaires principaux. Donc, il y a d'abord le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ici en Mauricie, okay. Qui a un institut universitaire en déficience intellectuelle qui finance, puis également un centre de recherche de la région de Québec également, qui propose une partie du financement. Il y a deux autres partenaires également, donc le groupe Jules Dallaire, là, qui, par une action philanthropique, donne des sous également pour soutenir la chaire. Puis il y a un partenaire français également, donc une association française également dans le secteur du handicap qui met également là, l'épaule à la roue là, pour donner une part du financement.
Il y a, je sais pas, peut-être 2-3 ans, je crois me souvenir d'avoir causé avec des gens qui étaient également affiliés avec l'UQTR, qui avaient mis sur pied une application avec des couleurs pour que les personnes en déficience intellectuelle puissent être de plus en plus autonomes. Donc, déjà, l'UQTR s'intéresse à la personne et la déficience intellectuelle. Qu'est-ce que la chaire de recherche va ajouter à ce qui existait déjà?
Bien, ce qu'on vient ajouter, en fait, c'est deux volets particulièrement. C'est qu'on va travailler vraiment surtout le volet habitat. Puis l'habitat, en fait, okay. c'est pas simplement là, le logement, mais c'est vraiment le milieu de vie de la personne. Ce qu'on cherche à faire, puis ce sur quoi on travaille déjà, c'est de développer des milieux de vie, en fait, qui vont permettre à la personne là, de pouvoir, je dirais, circuler puis mm-hmm. fonctionner à l'intérieur, finalement, de son environnement immédiat, son quartier, sa ville, en étant le plus possible autonome. Puis, une des façons d'y arriver, c'est justement de développer des modèles résidentiels qui ne seront pas des modèles où la personne, elle est prise en charge. Moi, j'aime bien utiliser l'expression d'un chez-soi. Faire en sorte que, quelle que soit notre situation, on puisse avoir accès à un chez-soi. Puis, un chez-soi, ben c'est un milieu dans lequel je peux exercer du contrôle, où je peux décider de mon horaire, où je peux, par exemple, choisir ce que je vais manger, je peux recevoir des amis. Puis ça, c'est pas toujours gagné pour les situations, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis du même ordre d'idée également, on va travailler à faire en sorte de développer des modèles qui permettent à la personne d'avoir une occupation du temps également qui est significative pour elle. Donc, c'est cette idée-là aussi de faire en sorte de dépasser, je dirais, le milieu occupationnel ouais. pour avoir un milieu qui nous permet de développer, d'exercer des compétences.
Mais concrètement, là, ça va plus loin qu'un agenda clair.
Ça va plus loin qu'un agenda clair. C'est cette idée-là, finalement, un peu comme on le vit tous, de pouvoir évoluer, en fait, professionnellement. C'est-à-dire que, on fait pas la même chose à 20 ans, à 30 ans, mmh. à 40 ans. Mmh. Il y a des nouveaux défis qui nous apparaissent sur le plan professionnel. On a des nouveaux défis, on a peut-être des nouveaux loisirs, des nouvelles activités qu'on se propose de réaliser. Bien, c'est de faire en sorte que la personne elle, puisse avoir des choix également. Puis qu'on soit pas dans une optique de lui trouver une place en un endroit, mais qu'on puisse lui proposer différentes possibilités, là, puis qu'elle puisse se développer à travers tout ça.
Vous me donnez un exemple de type de choix qui pourrait être offert?
Ben, l'idée, en fait, c'est notamment là, quand on pense à une personne qui a une déficience intellectuelle puis arrive l'âge de 21 ans.
Ouais.
Pour plusieurs parents, là, c'est le trou noir, en fait. Qu'est-ce que mon enfant va pouvoir avoir comme activité? Ben, c'est l'idée de faire en sorte là, qu'autour de la personne, on se coordonne puis faire en sorte qu'on lui offre différentes possibilités. Par exemple, ben, est-ce que je suis une personne qui souhaite me retrouver dans un milieu, par exemple, comme un milieu où, de travail qui est plus adapté? Est-ce que je souhaite travailler plutôt dans un milieu régulier? Ou si, au contraire, ben, moi, c'est pas tant un emploi que j'ai besoin pour le moment, mais plus de continuer à développer des capacités, des compétences dans un milieu qui s'apparente plus à un milieu scolaire. Donc, c'est d'avoir ces options-là. Pour plusieurs parents, actuellement, les options sont très limitées, puis les jeunes adultes aussi n'ont pas nécessairement devant eux des options. Ils sont souvent beaucoup plus limités en termes de choix, puis on veut faire en sorte de travailler avec les différents réseaux pour élargir ces choix-là, puis accompagner les personnes pour être capables de nommer ce qu'elles souhaitent, leurs préférences, les différentes possibilités qui s'offrent à elles.
Mais j'ai un petit peu de difficulté, Martin Caouette, à comprendre la différence entre, supposons, ce qu'un organisme pourrait faire en s'assoyant avec un de ses membres qui a une déficience intellectuelle, puis, je sais pas, moi, si c'est en loisir ou en lui disant, bon, as-tu du temps, as-tu envie de faire plutôt du culturel, genre de la peinture, des arts, ou bien du sport? Et est-ce que tu sais comment te rendre au centre sportif? Est-ce que tu veux qu'on te montre à prendre l'autobus versus une chaire de recherche qui va s'intéresser justement au quotidien, au mieux vivre et à... J'ai de la difficulté à voir la différence.
Bien, en fait, ce que vous avez décrit, hein, par exemple, dans un premier temps, cette possibilité-là de s'asseoir avec une personne puis lui proposer différentes choses, bien, dans les faits, actuellement, ça ne se fait pas toujours.
Ah oui, OK.
C'est pas toujours le cas pour toutes les personnes. Fait que l'idée... sur le plan de la recherche, c'est de comprendre pourquoi ça se fait pas toujours. Ils sont où les barrières, finalement, à ces possibilités-là? Comment ça se fait que ça se fait pas? Et sur le plan de la recherche, c'est d'être capable de le comprendre puis ensuite de proposer des solutions. Parce que ce que vous avez décrit, c'est un peu une situation idéale. Hein? Ce serait, par exemple, d'accompagner une personne qui arrive à l'âge de 21 ans puis de voir avec elle ben, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui plaît, dans quel type d'activité elle souhaite s'engager. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe dans bon nombre de situation. Fait qu'on veut comprendre pourquoi ça se passe pas, puis comment faire en sorte que ça puisse être possible, comment faire en sorte qu'on puisse mieux accompagner les personnes, puis qu'elles puissent avoir accès à davantage de choix.
Bon, on parle du lancement de la chaire de recherche autodétermination et handicap, donc c'est quand même assez large comme clientèle, si on veut. Est-ce qu'on a parlé de déficience intellectuelle, mais je sais pas, moi, faites-vous de l'autisme, faites-vous du sensoriel, faites-vous...
Pour le moment, principalement, on se concentre sur les besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais en travaillant sur ces situations-là, évidemment, ça génère des idées également, des possibilités pour d'autres formes, d'autres situations de handicap. S'autodéterminer, hein, c'est être capable d'avoir du pouvoir sur sa vie, prendre des décisions. L'exemple que vous avez donné au tout début de l'émission en était un, hein, juste avoir accès à une information qui permet de savoir que ça y est, c'est le moment là, de se préparer.
C'est ça, ouais.
C'est un exemple. Donc, c'est cette idée-là hein, de mettre de l'avant que peu importe la situation de handicap, là, on a tous besoin d'exercer un contrôle puis d'avoir du pouvoir sur sa vie. Donc, même si d'entrée de jeu, on est davantage centré sur la déficience intellectuelle puis l'autisme, c'est bien certain que les retombées pourraient rejoindre des personnes qui ont d'autres types de besoins.
Vous parliez d'un partenaire français. C'est surtout du financement où il y aura des échanges, des Français qui viendront ici, peut-être des gens d'ici qui iront là-bas?
Il y aura des échanges. Il y a déjà eu des échanges. On a déjà commencé, en fait. On a déjà à deux reprises accueilli des professionnels de milieux de pratique français qui sont venus faire des séjours ici au Québec pour voir un peu comment on fonctionne puis venir s'inspirer de nos pratiques. Inversement aussi, il y a des Québécois qui sont allés. Il y a des activités de formation également qui sont offertes en France à partir là, de l'expertise qu'on a développée ici au Québec. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette structure-là pour venir renforcer ces échanges-là. On a tout à gagner, en fait, de partager là, de part et d'autre là, ce qui se développe.
Est-ce qu'on a déjà annoncé, disons, une période, à savoir, les partenaires investissent pour tant d'années, puis ensuite, on verra où on s'en va. Est-ce qu'une chaire de recherche a une date de péremption?
En fait, fait, là, ce qu'on a annoncé, c'est pour les 5 prochaines années.
D'accord.
Vraiment, où on veut travailler plus en profondeur ces questions-là ensemble. Mais c'est sûr que le défi, hein, puis c'est le défi qu'on a sur le plan de la recherche.
C'est la pérennité.
C'est toujours, oui, ben c'est la pérennité, puis s'assurer de faire en sorte que on produit des résultats de recherche. Mais moi, c'est une grande préoccupation que j'ai aussi de faire en sorte que ces résultats-là de recherche, les gens, les acteurs du milieu puissent les approprier, puis mettre en action des choses aussi autour de ça. Il ne faut pas simplement produire des résultats pour en produire. Si ça ne vient pas changer ce qui se fait dans la pratique, ben finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, à travers tout ça, on veut structurer autant la recherche, puis autant les activités là, de formation pour avoir un impact là, concret sur la façon dont les services sont organisés.
Bon, en terminant, je remarque que vous êtes professeur. Il y a pas mal d'universitaires là-dedans. En même temps, il me semble que le communautaire et le plancher des vaches est important. Il faut l'entendre. Je présume que dans vos organismes locaux partenaires, on s'informe de ce côté-là?
Oui, absolument. Ben, en fait, il y a les 4 partenaires que je vous ai nommés, mais il y a aussi une quinzaine de collaborateurs. Okay. Les collaborateurs, en fait, c'est principalement des organismes communautaires qui vont profiter ou vont travailler conjointement avec nous autour des résultats qu'on va produire. C'est important de pas développer des projets de recherche là, que moi j'appelle dans l'absolu, là,
mais
qui viennent répondre à des besoins concrets puis des enjeux là, qui préoccupent les personnes directement. Donc, c'est aussi une façon d'être en contact direct avec les personnes qui vivent les situations de handicap, leurs proches, les organismes qui les soutiennent. Donc, on a vraiment une quinzaine de collaborateurs là, milieux scolaires, organismes communautaires qui sont vraiment répartis là, un peu partout au Québec et en France. Donc, ça nous donne un beau réseau, là, un beau tissu, je dirais, là, de soutien pour faire avancer les activités de la chaire.
Ben, une belle aventure qui s'installe pour au moins 5 ans. Souhaitons qu'il y ait des dividendes concrets qui sortent de ça. Merci beaucoup, Martin Caouette.
Plaisir, merci à vous.
Il est professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, également tuteur de la chaire, finalement. Semble-t-il qu'on ne dit pas directeur, mais tuteur, je pense, pour une chaire de recherche.